Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute en ce jeudi 18 juin 2020. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Au Burundi, Evariste Ndayishimiye a prêté serment. Le nouveau président prend en main les destinées d'un pays très pauvre avec de nombreux Burundais vivant en exil. L'armée centrafricaine et la force onusienne démarrent une opération militaire contre le mouvement 3R, groupe armé qui a suspendu sa participation à l'accord de paix. Au Mali, l'imam Mahamoud Diko, chef de file de la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, appelle encore à manifester demain malgré la main tendue du chef de l'État.
Je crois qu'il y a quatre points essentiels qu'il faut retenir du discours du président.
Dans l'actualité également, aux États-Unis, le président Donald Trump rejette les propos de son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, dans un livre qui doit être publié le 23 juin. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. Au Burundi, le nouveau président Evariste Ndayishimiye a prêté serment en Gitega, la capitale politique. La cérémonie a eu lieu dans un stade comble devant les juges de la Cour constitutionnelle et des leaders religieux. Nathalie Barge.
Je jure fidélité à la charte de l'unité nationale, à la constitution de la République du Burundi et à la loi, a déclaré Evariste Ndayishimiye au stade Ingoma à Gitega, la capitale politique du pays. Les autorités avaient demandé au public de se présenter tôt pour se plier aux mesures sanitaires, mais la distance de sécurité n'a pas été respectée et quasiment personne ne portait de masque. Lors de la cérémonie, l'archevêque de Gitega, Simon Tamwana, a appelé le nouveau président Evariste Ndayishimiye à ramener la paix entre les Burundais. Élu à la présidentielle du 20 mai, M. Ndayishimiye devait prendre ses fonctions le 20 août, à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin. La Cour constitutionnelle a donc ordonné qu'il débute son mandat le plus tôt possible. Le Burundi est classé parmi les trois pays les plus pauvres au monde. Par la Banque mondiale, M. Ndayishimiye avait promis lors de la campagne de faire de l'éradication de la pauvreté et du développement du pays sa priorité.
En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a débouté Jean-Marc Kaboun, président intérimaire du parti présidentiel, qui demandait l'annulation de sa déchéance comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les juges ont déclaré sa requête recevable, mais non fondée. Sa déchéance, suite à une pétition controversée du 25 mai, devrait prendre effet. Une déchéance survenue après un échange de coups de poing en pleine séance télévisée du Parlement. En République centrafricaine, la MINUSCA, la force de l'ONU et les forces armées du pays lancent une opération militaire contre les rebelles du groupe 3R. Ce mouvement armé, signataire de l'accord de paix du 6 février 2019 avec le gouvernement, est accusé ces derniers jours d'avoir foulé au pied ses engagements dans le cadre de cette entente politique. De Bangui, le point avec Freeman Nasipila.
Depuis son retour dans le maquis en mai dernier et l'annonce de son retrait de l'accord de paix du 6 février, Sidiki Abbas, le chef des 3R, renforce de plus en plus ses positions. Après l'attaque de la base des USMS, unité spéciale mixte de sécurité à Boar et le raid sur un checkpoint Minuskafaka à Pougol dans la préfecture de Lampéné le 9 juin dernier, le 3R s'impose avec la conquête de nouvelles zones dont l'ouest et le nord-ouest centrafricain. Face à cette violation flagrante de l'accord de paix, l'ONU et le gouvernement centrafricain passe à la vitesse supérieure. Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA.
Il y a eu des zones nouvellement occupées. En plus de ces occupations, il y a eu la violence contre les populations, contre les forces de défense et de sécurité, contre les casques bleus, contre les USMS, contre le centre d'instruction. Donc la MINUSCA, en coordination avec les FACA, a décidé de lancer cette opération. Eh bien, tous les moyens seront utilisés contre lui, y compris la force.
Cette vaste opération contre le mouvement 3R du chef de guerre camerounais Sidiki Abbas, dont l'ouest et le nord-ouest centrafricain, peut être vu comme un signal fort envoyé aux autres groupes armés qui s'illustrent ces derniers temps dans la violation de l'accord de paix, a estimé un élu de la nation. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Au Mali, le chef de file de la contestation en cours contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, l'imam Mahmoud Diko, a appelé à manifester en masse contre le pouvoir demain, vendredi, malgré les signes d'ouverture émis par le chef de l'État. L'influent guide religieux a accusé le président de n'avoir pas entendu le message des dizaines de milliers de personnes sorties dans la rue le 5 juin à Bamako. Il évoque notamment la mort de milliers de personnes tuées ces dernières années dans les attaques djihadistes et les violences intercommunautaire, les difficultés économiques et la perception d'une corruption répandue. Le président a lui annoncé des pourparlers en vue d'un gouvernement d'union nationale et laissé la porte ouverte à une dissolution du Parlement. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la Tranche Magazine. Au Mozambique, 4 policiers ont été condamnés aujourd'hui à plus de 20 ans de prison chacun pour l'assassinat d'un observateur électoral. Une affaire qui avait fait grand bruit dans le pays quelques jours avant les élections générales de l'année dernière. Leur procès était inédit au Mozambique où depuis 2015, plusieurs opposants ou militants de défense des libertés ont été tués, enlevés ou torturés. À la tête d'un forum d'association chargé de surveiller le scrutin, Anastasio Matavele, 58 ans, a été abattu le 7 octobre dernier alors qu'il circulait en voiture à Chachaï, dans le sud du pays. Le Soudan a proposé de confier au Premier ministre des pays concernés la tâche de sortir de l'impasse les difficiles négociations avec l'Éthiopie et l'Égypte sur le méga-barrage construit par Addis Abeba sur le Nil, source de vives tensions régionales. Si le Caire a affirmé que cette proposition avait été rejetée par Addis Abeba, la partie éthiopienne n'a pour l'heure communiqué aucune réponse officielle. Aucun calendrier n'a été fixé pour une rencontre des chefs de gouvernement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU poursuit aujourd'hui son débat historique sur un projet de résolution condamnant ce qui est qualifié de pratique raciale discriminatoire et violente des forces de l'ordre aux États-Unis et dans le reste du monde. C'est au lendemain de l'inculpation pour meurtre d'un policier blanc qui a abattu un jeune afro-américain à Atlanta. Eric Manirakiza.
Hier, le frère de George Floyd a lancé un vibrant appel pour l'établissement d'une commission d'enquête indépendante sur les personnes noires tuées par la police aux États-Unis. Vous avez le pouvoir de nous aider à obtenir justice, a martelé Philonis Floyd dans un message vidéo diffusé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Sans mentionner les États-Unis, la haut-commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet a dénoncé le racisme systémique et appelé à faire amende honorable pour des siècles d'oppression des populations noires avec des excuses officielles et des réparations. Une nouvelle mouture du projet de résolution se contente de demander à Michelle Bachelet d'établir les faits et les circonstances relatives au racisme systémique, aux violations présumées du droit international en matière de droits de l'homme et des mauvais traitements contre les Africains et les personnes d'origine africaine. Avant l'ouverture de la réunion mercredi, une vingtaine de hauts fonctionnaires des Nations Unies d'origine ou d'ascendance africaine ont signé à titre personnel une déclaration estimant que la simple condamnation des expressions et des actes de racisme ne suffit pas. Le vote devrait avoir lieu jeudi ou vendredi, selon une source de l'ONU.
La Cour suprême américaine a validé ce jeudi les protections accordées par Barack Obama à 700 000 jeunes migrants, les Dreamers, que l'actuel locataire de la Maison Blanche voulait supprimer. La haute cour a jugé capricieuse et arbitraire la décision de l'administration républicaine de mettre un terme au programme adopté par l'ancien président démocrate Barack Obama qui protège de l'expulsion les immigrés de moins de 30 ans arrivés clandestinement dans leur enfance aux États-Unis. Le chef de la cour, John Roberts, a joint sa voix à ses 4 collègues progressistes pour cette décision prise à une courte majorité de 5 juges sur 9. Toujours aux États-Unis, bras de fer entre l'administration de Donald Trump et John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale du président américain, à propos de la sortie d'un livre prévu le 23 juin. Abdourahman Dia.
Le ministère de la Justice a engagé hier une action judiciaire en urgence, accusant John Bolton d'avoir dans son livre des informations confidentielles. Il a enfreint la loi en diffusant des informations très confidentielles, a estimé pour sa part le président américain auprès de la chaîne Fox News. Donald Trump s'est aussi moqué du passé de son ancien conseiller, considéré comme un va-t-en-guerre pour son soutien à la guerre en Irak. Dans un tweet, Donald Trump a qualifié Bolton de dingue, affirmant que le livre n'était qu'un tissu de mensonges et de fausses histoires. John Bolton aurait écrit que le président américain a cherché l'aide de la Chine pour gagner sa réélection en novembre prochain, une accusation rejetée en bloc par le président et ses alliés. Malgré la procédure judiciaire en cours contre l'apparition du livre, la presse américaine a déjà diffusé plusieurs extraits.
Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, en résumé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Ekiabadou.
Les mines de cobalt de la République démocratique du Congo sont dans le viseur du constructeur automobile Tesla, qui est sur le point de conclure un accord avec Glencore. Le but est de sécuriser des tonnes de minerais indispensables à son activité. D'après le Financial Times, la compagnie Tesla veut acheter du cobalt auprès de Glencore pour alimenter ses nouvelles usines en Chine et en Allemagne. L'accord porterait sur une fourniture annuelle de 6000 tonnes de cobalt. La baisse du chômage semble plus lente que prévu aux États-Unis malgré la reprise de l'activité, mais la réouverture de l'économie a permis à l'industrie manufacturière de renouer avec la croissance en juin. La semaine dernière, 1,5 million de personnes se sont inscrites pour la première fois au chômage, un nombre plus élevé que les 1,35 million prévus par les analystes. Le Nasdaq a annoncé mercredi l'intégration de la Banque africaine de développement, l'un des plus grands émetteurs mondiaux d'obligations à impact social, au réseau d'obligations durables du Nasdaq. Le NSBN est une plateforme internationale accessible au public, conçue pour améliorer la transparence du marché des obligations durables.
Et maintenant les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les avocats d'Habib Cissé, un des prévenus au procès d'un système de corruption dans l'athlétisme sur fond de dopage en Russie, dénoncent l'absence d'audition par les enquêteurs des athlètes russes impliqués dans des remises de fonds. C'est à son domicile qu'une note détaillant des sommes allant jusqu'à 600 000 ou 700 000 euros en face du nom d'athlètes russes soupçonnés de dopage a été retrouvée, contenant aussi la mention en anglais « full protection », entendez protection totale. Hier, le parquet a requis 4 ans de prison contre l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, et 5 pour son fils, Papa Massata, contre le père et le fils absent à son procès et contre lequel un mandat d'arrêt a été requis. Les procureurs ont aussi réclamé 500 000 euros d'amende chacun et une interdiction d'exercer dans le sport. Ils sont tous jugés à Paris pour avoir permis de retarder à partir de 2011 des sanctions disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage. En football, fin d'aventure entre l'international camerounais Eric Maxime Choupo-Moting et le Paris Saint-Germain, arrivé dans la capitale française il y a 2 ans. Le Camerounais ne sera pas prolongé à la fin de son contrat le 30 juin. Il a laissé un émouvant message d'adieu sur ses comptes sociaux. Merci Paris pour ces belles saisons passées dans l'un des clubs les plus magnifiques du monde. Merci aux supporters pour tout l'amour qu'ils ont apporté à ma petite personne. Merci au coach Tourelle pour la confiance qu'il m'a toujours donnée. Merci au président du Paris Saint-Germain. Merci à tous mes coéquipiers. Merci à mon épouse pour le moral et l'amour qu'elle me donne chaque jour. Merci à vous mes fans. Paris, c'est magique. Ici, c'est Paris. Ça donne et ça dose, a écrit Choupo-Moting. Le bilan de l'attaquant de 31 ans avec le Paris Saint-Germain se présente comme suit. 56 matchs, 10 buts et 3 passes décisives. Il a remporté 2 titres de champion de France en 2019 et 2020. Après Nuremberg, Hambourg, Schalke 04, Mayence, Stoke City et le PSG, on sera bientôt le 7e club en professionnel pour le Camerounais. En Espagne, le championnat de football a augmenté de presque 50% son audience internationale lors de la diffusion de la 28e journée, la première post-pandémie. Sur le continent africain, l'audience a augmenté de 73% et dans des pays comme l'Afrique du Sud, le bond a été de plus de 210%, affirme la Liga. En Europe, l'augmentation a été de plus de 56%, se félicite la Liga, citant des hausses de plus de 130% en Belgique. Mais en Espagne, les données officielles montrent une augmentation de plus de 12%. de l'audience espagnole pendant la première journée de reprise. La Premier League a repris le 17 juin et la Serie A italienne doit reprendre le 20.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci pour votre fidélité. Jacques Aristé toujours avec vous. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Au Burkina Faso, les diverses affaires de malversation et de détournement continuent de faire la une. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, est notamment revenu ce jeudi sur l'affaire Claude Bouda. Incarcéré, l'ancien ministre de la Défense du président Roch Kabore a été inculpé pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux de la capitale burkinabé. Le compte-rendu de notre correspondant Kader Traoré.
Lors de cette conférence de presse, Haruna Yoda, procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, est revenu sur les dossiers ayant été soulevés au départ par des journaux d'investigation. Il s'agit entre autres du délit d'apparence et de la présomption de blanchiment de capitaux dont est accusé l'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouda. Haruna Yoda, procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Monsieur Bouda a soutenu l'existence de certains apports tant en nature qu'en numéraire, les documents produits pour justifier des apports ne semblent pas avoir une force probante, ce qui laisse penser à de faux documents établis à dessein pour les besoins donc de la cause.
Le procureur du Faso a aussi fait cas de l'histoire des faux ordres de mission à la présidente du Faso. Des agents du groupement de sécurité et de protection républicaine ont perçu des frais de mission qu'ils n'ont pas effectués. Haruna Yoda, procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou.
La secrétaire générale de la présidence du Faso, le directeur administratif et financier de la présidence du Faso et le commandant de la GSPR ainsi que certains de ces éléments ont été entendus. Cette enquête a permis de confirmer l'écrit du journal quant à l'existence de faux ordres de mission ayant donné lieu à des paiements de frais à certains éléments du GSPR.
De l'affaire des 77 véhicules acquis par la mairie de Ouagadougou, des magistrats ont tenté de noyer le dossier contre le paiement de 70 millions de francs CFA. Sur cette affaire, deux personnes qui étaient en garde à vue ont été déférées à la MACO. Haruna Yoda, procureur du Faso, près le TGI de Ouagadougou.
Il ressort de certains enregistrements audio effectués par le maire que des magistrats chargés ou non du dossier ont été approchés par Sawadogo Narcisse et son acolyte Bagayan Alassane. Il est déclaré à tort par Sawadogo Narcisse que le juge d'instruction Kwanda Daouda est chargé du dossier alors que, à ce stade, aucun juge d'instruction n'est saisi du dossier.
Concernant ce dernier dossier, le journal d'investigation L'Événement a beaucoup contribué à rendre publique cette affaire de corruption au sommet de l'État. Serge Houlon est journaliste à L'Événement.
C'est une bonne chose que le procureur du Faso auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou surtout saisit la question après l'apparition de l'article. Mais tout de même, on a des interrogations, ou du moins on peut se poser des questions. Est-ce qu'on s'est donné les moyens de mener l'enquête de façon totale et impartiale afin de faire de telle sorte qu'on puisse mettre la main sur toutes les personnes en fait qui sont impliquées?
Ces dossiers viennent montrer qu'il y a beaucoup d'effets de corruption qui se passent au sommet de l'État burkinabé. Il faut maintenant espérer que la justice aille au bout et que les coupables soient sanctionnés. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Mali, Mahmoud Diko n'en démord pas. Le chef de file de la contestation en cours contre le président Ibrahim Boubacar Keïta appelle les Maliens à manifester en masse demain contre le pouvoir. Pourtant, mardi, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, dans un discours, a émis des signes d'ouverture, notamment le règlement des revendications des enseignants et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour une analyse, Bagassé Koura, adjoint à Bamako, Fakaba Sissoko, il est enseignant-chercheur et analyste politique.
Je crois qu'il y a quatre points essentiels qu'il faut retenir du discours du président. Le premier point, c'est les difficultés qu'il y a autour de la question de l'école. La question de l'école qui a préoccupé les Maliens ces derniers temps autour de l'application de l'article 39 du statut particulier des enseignants. Et donc, de ce fait, le président a instruit au premier ministre d'appliquer cet article-là, qui va constituer, de mon point de vue, un apaisement sur le front social. Et deuxième mesure, c'est de dire qu'il privilégie le dialogue dans la situation actuelle et que sa porte reste toujours ouverte à ceux qui sont dans la dynamique de la contestation et qu'il est disposé à réfléchir et à proposer de commun accord avec les marcheurs un dispositif pour dissoudre l'Assemblée nationale, faire démissionner la présidente de la Cour constitutionnelle.
Alors, à votre avis, ces décisions vont permettre de calmer les manifestants?
Absolument. Je n'ai pas de doute aujourd'hui que si on combine l'ensemble de ces mesures, dissolution de la Cour constitutionnelle, dissolution de l'Assemblée nationale, invocation du président de la République de l'article 50 de la Constitution pour lui permettre d'exercer de toute sa plénitude l'exercice du pouvoir, et à côté, à appeler le peuple malien à une constituante pour conduire les réformes politiques et institutionnelles, de mon point de vue, sont les gages d'une stabilité et pourront permettre à notre pays de sortir grandi de cette crise avec de nouveaux sentiers, avec de nouveaux défis pour restaurer la confiance perdue entre le peuple et le gouvernement.
Alors, il a été difficile d'organiser ces élections législatives. Est-ce que ce n'est pas encore un autre risque qu'on prend en dissolvant l'Assemblée, en retournant sur le terrain de la campagne électorale?
Absolument. Aujourd'hui, il est vrai que l'une des difficultés que nous allons avoir, c'est de trouver l'argent nécessaire et de trouver un moment propice avec le contexte sécuritaire difficile et de trouver les garanties nécessaires pour l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Mais comme je l'ai dit, aucune élection ne sera crédible avec le système électoral actuel. C'est pourquoi il est nécessaire d'aller vers les réformes politiques et institutionnelles. Une des réformes sera la mise en place de la commission unique, du comité unique d'organisation des élections, qui permettra de réduire le poids de la Cour constitutionnelle dans la validation des résultats, qui permettra aussi de réduire le poids de l'administration publique dans l'organisation des élections et qui permettra enfin au peuple malien que les voix sorties des urnes puissent être comptées et puissent être viables. Donc il y a ce risque effectivement de ne pas avoir l'argent nécessaire, mais aujourd'hui, en ne prenant pas cette décision courageuse, il y a le risque de voir le pays sombrer dans l'abîme parce que la situation sécuritaire est tendue, parce que les djihadistes rôdent autour du pays, parce que nous avons perdu les deux tiers de notre pays et qu'il est nécessaire d'aller vers des solutions courageuses pour nous faire sortir de tout cela.
Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur et analyste politique à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, le coût de la vie devient de plus en plus cher. Pendant cette période de crise sanitaire du nouveau coronavirus, pour juguler la crise alimentaire, le gouvernement a décidé de plafonner les prix de vente des produits alimentaires de première nécessité dans la ville de N'Djamena pour une période de 6 mois. Une mesure qui n'est toutefois pas respectée par les commerçants. André Konmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Avec la Covid-19, les commerçants, aussitôt lorsqu'on a dit les frontières sont plus ou moins fermées, ont commencé à augmenter systématiquement leurs prix. Et c'est ce qui nous a amené à prendre des mesures pour contrer cette spéculation.
Vici Aburanga, président du Conseil national de la concurrence au ministère du Commerce. Prix consensuel, mais pas évident. Nous sommes au marché cinquantenaire, l'un des vieux marchés de la capitale. Différents produits alimentaires et autres articles se vendent ici. Mais les prix sont fixés à la tête du client, sans égard des prescription des autorités en charge du commerce.
Ce qui a été dit par le gouvernement n'est pas respecté par certains commerçants, parce qu'un commerçant peut vendre son paquet de sucre à 1000 francs, un autre peut te dire 1100 francs, un troisième te dira 1250, et c'est vraiment regrettable.
Mahamat Ahmad Hassan, un commerçant rencontré devant sa boutique, justifie cette flambée de prix.
Nous, commerçants détaillants, nous payons les marchandises trop chères avec les grossistes. Par exemple, le riz de 5 50 kg à 20 000 francs et nous revendons soit à 20 500 ou 21 000 francs CFA. Parce qu'on a besoin aussi de bénéfices et donc on ne peut pas vendre nos produits à perte.
Dingam Nayel ne diversine ses pires coups le soudier donné. Deux membres du collectif tchadien contre la vie chère ont des avis partagés sur la réglementation des prix des denrées de première nécessité sur le marché.
L'État doit plutôt subventionner les anciens stocks avec les commerçants. Mais vous donnez un coup de tête brutal aux commerçants et vous voulez qu'ils appliquent ce que vous décidez. Non, dans ce domaine, je donne raison aux commerçants.
On se rend compte que les commerçants sont plus puissants même que l'État tchadien. C'est un problème qui concerne toute la couche sociale.
Pour Vicia Buranga, président du Conseil national de la concurrence au ministère en charge du commerce, il faut passer à une vitesse supérieure pour faire appliquer cette mesure.
Ces commerçants, est-ce que c'est un défi qu'ils sont en train de lancer ou bien c'est parce qu'ils ne comprennent pas? Nous avons programmé déjà des actions. La brigade ministre de contrôle économique va descendre sur le marché pour cette fois-ci, non seulement faire la sensibilisation, mais interpeller un certain nombre de commerçants qui n'ont pas pu respecter les mesures que nous avons prises ensemble.
Les denrées alimentaires concernées par le réajustement du prix sont entre autres le riz local, le riz importé brisure et normal, le maïs, le sorgho, la viande et le sucre pour une période de 6 mois. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous cette semaine dans Washington Forum. Le Burundi sur le point de tourner une page de son histoire après la mort subite du président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 15 ans. Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD qui a remporté les élections du 20 mai, va prendre fonction plus tôt que prévu. Quel est l'héritage du président Nkurunziza? Le nouveau chef de l'État pourra-t-il réconcilier les Burundais et sortir le pays de son isolement diplomatique? Nous allons débattre de tout cela avec nos invités ce jeudi 18 juin 2020 à 19h universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Les parlementaires américains essaient de répondre à la forte demande de réforme de la police entendue lors des grandes manifestations après la mort de George Floyd à Minneapolis. Les sénateurs républicains ont annoncé mercredi qu'ils vont voter un projet de loi la semaine prochaine, alors que les démocrates de la Chambre des représentants s'apprêtent à adopter leur propre législation. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait un état des lieux, le récit avec Lionel Gaïma.
Réformer la police a été l'une des exigences des manifestants dans de nombreuses villes américaines à la mort de George Floyd. Maintenant, le débat est arrivé au Congrès. Les sénateurs républicains ont présenté leurs propres propositions. Tim Scott, l'unique sénateur républicain noir.
Trop souvent, nous avons un débat dans ce pays. Soutenez-vous les forces de l'ordre ou soutenez-vous les communautés de couleur? C'est un faux choix binaire. À la question « En quel côté soutenez-vous ?», la réponse est « Je soutiens l'Amérique ». Et si vous soutenez l'Amérique, vous soutenez le rétablissement de la confiance que les communautés de couleur ont dans les institutions.
Les républicains disent que leur projet de loi s'appuie sur le décret signé mardi par le président Trump. Lindsey Graham, sénateur républicain.
Je suis un peu fatigué avec mes collègues démocrates qui donnent des leçons en disant que tout est la faute de Trump. Vous aviez 8 ans sous le président Obama.
De leur côté, les démocrates estiment que la proposition des républicains ne tient pas compte des mandats d'arrêt permettant d'entrer dans une demeure sans s'annoncer et qui ont abouti à la mort de Breonna Taylor plus tôt cette année, ou des forces d'étranglement à l'origine de la mort de George Floyd. Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat.
Le vrai changement vient avec la responsabilité. Le projet républicain ne la prévoit pas. Donc, nous avons un récit de deux chambres, un contraste flagrant entre un projet de loi fort et complet des démocrates de la Chambre et un autre républicain plus étroit et moins efficace au Sénat.
La proposition démocrate mettrait fin à l'immunité qualifiée qui protège les policiers contre des accusations de faute. Karen Bass est représentante démocrate à la Chambre.
Une profession où vous avez le pouvoir de tuer devrait en être une requérant des agents hautement qualifiés et responsables devant le public.
La Maison-Blanche soutient que l'élimination de l'immunité qualifiée est l'un des éléments de la proposition des démocrates que le président ne va jamais signer. Kelly McEnany du service de presse de la Maison-Blanche.
En supprimant l'immunité qualifiée, ce que vous faites essentiellement, c'est d'empêcher la police de faire son travail. Il y aurait une diminution des services de police dans ce pays, nos rues ne seraient plus sûres.
Trump soutient le projet de loi des républicains du Sénat et le coparrain de ce projet est plein d'espoir. Le sénateur Tim Scott.
Je ne pense pas que la nation va vous permettre de perdre cet élan.
Son projet ne passerait pas à la Chambre à majorité démocrate sans d'âpres négociations et les législateurs manquent de temps pour adopter une loi ambitieuse en cette année électorale.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Joselle Morissin, Georges Léonard Sagno et Lionel Gaïma. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir.